18h43 minutes à compter de 19h, ça sera l'émission d'avant-match, duel entre le Canadien et les Canucks de Vancouver. Émission qui parvient aujourd'hui en direct du Centre Bell et le collègue Jérémy Filosa qui est avec nous. Salut Jérémy.
Salut.
Évidemment, tu seras là pour les échos de vestiaire après le match. Et ça nous amène aujourd'hui, tu regardais un peu dans ce qui se passe sur les réseaux sociaux et tu t'aperçois qu'il y a un ancien joueur des Expos qui a une cote de popularité assez incroyable et qui monte de façon fulgurante.
Ouais, écoute, j'avais fait une prédiction il y a de ça à peu près un mois et j'avais dit Larry Walker va obtenir 65 % des votes nécessaires pour rentrer au Temple de la Renommée cette année. Puis, écoute, ça c'était mon opinion à moi, mais je suis surpris de voir que l'année passée, c'était sa 8e année d'éligibilité, 34,1 % des votes nécessaires, seulement 144 votes. Hey, il reste 2 années, on s'est dit, ça regarde pas bien. Ben cette année, ce qui arrive, c'est qu'il y a plusieurs journalistes qui rendent public leur vote. Donc, okay. Ils mettent ça sur les médias sociaux. Donc, il y a des gens qui comptabilisent. Ils prennent les résultats d'un peu tout le monde et ils comptabilisent. Et présentement, dans les projections des experts, eh bien, Larry Walker passerait de 34 % à 62 % cette année. C'est énorme. C'est presque 30 % de plus de votes. Pourquoi? Parce que des statisticiens qui étudient les statistiques avancées du baseball, mais aussi, il y a des gens qui sont impliqués dans le retour du baseball, qui font la promotion sur les médias sociaux de Larry Walker, de sa carrière et tout cela. Et donc, au moment où on se parle, il faut comprendre que ça prend 75 % des votes et que c'est son avant-dernière année d'éligibilité. Donc, s'il ne rentre pas cette année, l'année prochaine, ça va être la dernière chance pour lui. Mais il va faire un saut absolument incroyable.
Est-ce que Larry Walker a des chiffres pour entrer au Temple de la Renommée?
Ça, c'est ça la discussion. Il y a de très bons chiffres. T'sais, c'est un gars qui a frappé 313 à vie, plus de 400 moyenne de présence sur les sentiers. Si on regarde ça, il a été joueur le plus utile. 5 fois au match des étoiles, 6 gants dorés, 3 bâtons d'argent. Je veux dire, il a pas mal tout fait. Mais quand on regarde de plus près les chiffres, il y a des statistiques qui ne mentent pas. Par exemple, il est seulement un de 2 joueurs dans toute l'histoire du baseball, avoir frappé 300 circuits, 200 buts volés et avoir un pourcentage de présence sur les sentiers, plus sa moyenne de puissance à au-dessus de 950. Mais plus spécifiquement que cela, dans l'histoire du baseball, il y a eu presque 20 000 joueurs qui ont joué dans le baseball majeur. OK? Ça fait du monde. Bien, si on regarde la liste des joueurs qui ont au moins 350 circuits, 200 buts volés, moyenne de 300 et plus et moyenne de présence sur les sentiers à 400 et plus, toutes des statistiques importantes. Larry Walker est le seul joueur dans l'histoire du baseball à avoir accumulé ces statistiques-là. Le seul!
Est-ce que le buzz entourant un retour potentiel du baseball à Montréal peut favoriser Larry Walker?
Oui, absolument, parce qu'il y a tellement de buzz sur les médias sociaux autour du retour des expos et ceux qui moussent le retour des expos que tout cela vient à être partagé très, très, très souvent. Et écoutez, on a vu le mouvement du retour des expos pousser Tim Raines dans le Temple de la Renommée. Il rentre à sa dernière année. Mais à un moment donné, les gens se sont dit, tabarouette, si on ne fait pas quelque chose, il ne rentrera pas. On a aidé Dawson, Carter, Raines à rentrer, même Pedro Martinez, comme si lui, c'était quand même, il rentrait les yeux fermés. Le problème, c'est que plusieurs joueurs disent, ou plusieurs journalistes disent, « Ouais, mais il a joué au Coors Field, c'est plus facile de frapper là-bas, puis tout ça. » Puis c'est vrai que quand on regarde les chiffres, à vie, Larry Walker, au Coors Field, a frappé 381 avec une moyenne de présence sur les sentiers de 462. Et à l'extérieur du Coors Field, ça descend d'à peu près 100 points. 282 de moyenne au bâton, 357 de présence sur les sentiers. Mais ça demeure des excellentes statistiques. Même ces chiffres à l'extérieur du Coors Field peuvent se comparer à d'autres joueurs qui sont présentement au Temple de la Renommée.
Jérémy, dis-moi, est-ce qu'il y a d'autres joueurs potentiels des expos de l'époque qui pourraient faire leur entrée au Temple de la Renommée?
Ben, on a vu cette semaine Lee Smith, il y a quelques semaines, qui a été élu par le comité des vétérans. Parce que quand tu dépasses les 10 ans d'éligibilité, il y a un comité des vétérans qui peut dire « Hey, lui, là, on a fait une erreur, il aurait dû rentrer. » Donc, Lee Smith est entré, il a passé une saison avec les expos. Mais moi, il y a un gars que j'aimerais voir au Temple de la Renommée, puis je pense qu'il le mérite, pas seulement par sa carrière de joueur, mais pour l'ensemble de l'œuvre. C'est Philippe Allou. Parce que Philippe, il a marqué le baseball au-delà de seulement sa carrière de joueur qui a été quand même très bonne, frappé plus de 200 circuits, plus de 2000 coups sûrs, moyenne au bâton 286. Donc, il était un excellent joueur de baseball. Il a patrouillé le champ extérieur des Giants de San Francisco avec ses deux frères. Matty et Jesus, le seul trio de frères dans l'histoire du baseball à avoir patrouillé un champ extérieur. Mais c'est ce qui a amené aussi, en tant que, premièrement, il était un excellent gérant. On l'a vu avec les Expos de Montréal, malgré des équipes souvent qui ne pouvaient pas compétitionner, il arrivait à faire des miracles. Mais Philippe, ça a été le premier Dominicain qui est sorti de cette île-là, puis qui s'est amené en Amérique du Nord en 1958 pour essayer de paver la route pour d'autres Dominicains. Puis on voit aujourd'hui la machine, la pépinière qui est la République dominicaine pour le baseball majeur. Lui a été le premier. Premier joueur dominicain dans le baseball majeur, premier gérant de l'histoire du baseball majeur dominicain. Donc, il y a une importance plus que ce qu'il a amené comme joueur, ce qu'il a amené comme gérant, ce qu'il a amené comme instructeur au niveau des ligues mineures pendant plusieurs années. Donc, pour tout ça, moi, j'aimerais voir Philippe rentrer un jour au Temple de la Renommée. Je ne sais pas si on va y faire une place.
Est-ce qu'il y aura la casquette des Giants de San Francisco, par contre?
Ben, écoute, ça serait difficile de lui enlever parce qu'il a joué longtemps avec les Giants. Il a fait sa marque comme joueur avec les Giants et il a terminé en tant que gérant avec les Giants. Par contre, il a passé aussi plusieurs années avec les Expos, une saison seulement comme joueur, mais aussi dans les ligues mineures pendant plusieurs années, alors que finalement, on lui a donné le rôle de gérant des Expos. Mais ça serait déchirant. Ce serait absolument déchirant, mais je sais que pour Philippe, San Francisco, c'est comme son deuxième chez lui quasiment. Mm-hmm. Là, il a vécu des moments pas faciles parce que lui, il sortait de la République dominicaine, puis ceux qui connaissent un peu la République, c'est un mélange, il y a des noirs, il y a des blancs. Lui, sa mère était blanche, son père était noir. Fait qu'il n'a pas vraiment vécu le racisme. Mais là, il arrive aux États-Unis, dans le sud des États-Unis, en Louisiane. Puis là, il se fait traiter de tous les noms, puis t'es un pas bon, puis t'es un latin, puis en plus, t'es un noir. Puis il a vécu des... Écoute, j'ai été privilégié. Moi, j'ai couvert les Expos à la fin des années 90. Puis en tant que jeune journaliste, je pouvais m'asseoir dans le bureau de Philippe, puis il nous donnait 30 minutes à tous les jours. Puis on parlait de l'équipe, puis tout ça, mais après ça, on pouvait aussi parler de l'histoire du baseball. Qu'est-ce que lui avait vécu? Puis j'ai été tellement chanceux de pouvoir en apprendre de sa part, puis il nous a raconté toutes ces histoires-là que je pourrais te raconter jusqu'à demain. Puis pour ça, je pense que Philippe, il mérite sa place au temple.
Jérémy, en terminant, évidemment, tu es toujours sur les réseaux sociaux à regarder l'information. Est-ce qu'on a des nouvelles de Tampa Bay? Parce que là, la fenêtre est fermée. C'était le 31, là.
Non, il n'y a rien qui a bougé, malheureusement. Là, j'aimerais ça avoir des nouvelles pour vous, mais il n'y a rien de neuf. Il faut attendre la réaction des Rays de Tampa Bay officiellement à la demande de St. Petersburg qui disent « Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous bâtissez un stade ici ou est-ce que vous quittez? » Donc, on attend de voir la réaction des Rays, mais on attend aussi, bien sûr, le premier commentaire du commissaire maintenant que ce dossier-là est clos, que le document est déchiré, que l'entente tombe à l'eau. Est-ce que le commissaire va dire « Nous, on a fait ce qu'on avait à faire, puis là, ben, faut passer à d'autres choses » ou est-ce qu'il va dire « On va redonner une autre chance aux Rays d'essayer de remettre en place un projet de stade? » Donc, c'est ça qu'on attend. Normalement, le commissaire du baseball majeur fait ses premières sorties au début du camp d'entraînement. J'espère que ça va être avant. Mais assurément, d'ici le début des matchs de la Ligue des Pamplemousses, on devrait avoir une réaction de la part du commissaire.
Et juste en terminant, tu as vu Alejandro Silva?
Oui!
Il est toujours du côté de l'Olympia?
Oui, bien, il s'est entraîné ce matin, premier...
Ancien membre de l'Impact, ou on ne sait plus s'il est membre de l'Impact ou de l'Olympia?
Bien, écoute, c'est tellement... Et c'est ça qui est un peu dommage. Puis les gens ont de la difficulté, des fois, à prendre le soccer au sérieux parce que... Toi, tu regardes ça de loin, puis tu es un fan un peu de soccer, puis tu suis un peu l'Impact. Là, tu vois sur les médias sociaux un joueur de l'Impact dans un autre uniforme, dans une autre équipe. Il s'entraîne, il est rendu, là, clairement. Puis il n'y a pas de confirmation ni de la Ligue ni de l'équipe que le joueur, il appartient un peu à l'Impact. C'est ridicule. Comme j'ai dit hier, va-t-il falloir attendre qu'il marque un but pour dire « Ah, mais finalement, il joue plus pour nous autres. »
mais l'Impact est toujours tributaire, évidemment, d'une décision de la MLS.
Exact.
Jérémy Filosa, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir.
Merci.
Salut.
On s'arrête quelques instants. On retourne au résumé complet de ce qui se passe présentement dans le monde du sport.